Radio Kapi. Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Toujours pas de bilan officiel, 4 jours après le naufrage qui a coûté la vie à une centaine de personnes à Bassankusu dans l'Équateur, le gouvernement provincial a dépêché une mission sur place. Entre-temps, le commissaire fluvial de Mbandaka rejette le bilan de 100 morts avancés jusqu'ici. Compétent Mboyo est l'invité de ce journal. Le Conseil de l'Apostolat des laïcs catholiques du Congo, KCC, plaide pour la levée de l'état de siège et d'établir des bases militaires spéciales dans Djougou, Mahagi et Irumu pour neutraliser les groupes armés. Le KCC le dit dans une déclaration publiée vendredi à Bunia. Et puis, paralysie des activités scolaires dans les écoles publiques de la sous-division de l'EPST de Beni au Nord Kivu. À la base, la poursuite de la grève des enseignants de ces établissements, les grévistes réclament une majoration de leur salaire. Madame, Messieurs, bonjour. Un naufrage du convoi motorisé le 18 janvier dernier à Bassankusu dans l'Équateur. Hier samedi, le gouvernement provincial a dépêché une délégation composée des humanitaires et des délégués de la Croix-Rouge. Selon Luc Didier Mboula, ministre provincial aux actions humanitaires, cette délégation a pour mission d'obtenir des données réelles de l'accident, de repêcher les corps pour un enterrement digne et d'apporter une assistance alimentaire aux rescapés. En attendant le résultat de la mission, le commissaire fluvial de Mbandaka, qui supervise l'axe fluvial jusqu'à Bassankusu, rejette le bilan provisoire d'une centaine de morts avancés jusqu'ici. Compétent Mboyo, c'est son nom, s'explique au micro de Paul Richard Malengela.
Avec un convoi accompagné de 2 pirogues, on peut transférer plus de 150 personnes. C'est impossible. C'était nous les disant que non, on doit éviter à faire des traumatismes. Moi, je vous confirme qu'il n'y a pas les cas de mort d'hommes.
Nous avons quand même les témoignages des passagers qui étaient à bord, qui confirment qu'ils étaient au temps et qu'ils ont perdu leurs effets de chèvres, de produits vivriers. Il y a même des étudiants qui revenaient de vacances pour étudier ici en Mbandaka.
Monsieur le journaliste, on est en Mbandaka. Bassankusu, il y a un problème de 150 ou bien 100 morts. 100 morts, même au niveau de Bassankusu. Il y a des plaies. Nous sommes ici. On nous appelait comme des gens qui disent que nous, à savoir, nous avons les accidents. Il n'y a personne. Même ceux qui sont partis là-bas, ils devaient venir à Mbandaka. Parce que c'est l'heure de l'heure de terminus.
C'est à plus de 200 km d'ici. Comment ils pouvaient encore arriver ici sans pirogue, sans moyen de...
Mais c'est ça le problème. Nous nous demandons, où sont-ils?
Mais il y a l'AT de Bassankusu qui a confirmé.
Moi, j'avais reçu la lettre de l'AT Bassankusu. Il me dit 100 morts avec 50 rescapés. Je lui ai posé la question, c'est faux, archi fou. Et on les a enterrés où?
Pour plus de précisions, le commissaire fluvial de Mbandaka, compétent Mboyo, est l'invité de ce journal à suivre sous peu. Province du Tanganyika, la ferme pénitentiaire située à une dizaine de kilomètres de Kalemi sur la route Nyunzu permet à améliorer la prise en charge alimentaire des détenus de la prison centrale de Kalemi. Ces derniers y cultivent des produits agricoles pour lutter contre la malnutrition. C'est un projet financé par la MONUSCO avec l'appui du PNUD. Le secrétaire général du ministère de la Justice a visité la ferme pénitentiaire hier samedi. Paulin Munanga était de la partie. Voici son reportage.
La ferme pénitentiaire de 3 hectares, clôturée par les fils de fer barbelés, est dans une phase expérimentale. Une dizaine de détenus de la prison centrale de Kalemi y cultivent les maïs, les haricots, les maniocs, l'arachide et les soja. En outre, il y a un poulailler dans la ferme mais qui est à l'arrêt momentanément. La ferme a reçu la visite du secrétaire général du ministère de la Justice, de la chef de l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO et de la chef des services pénitentiaires en mission à Kalemi. Le secrétaire général salue cette initiative et promet un appui du gouvernement provincial du Tanganyika. Booto Bololinga King.
S'il y a une production pénitentiaire, on ne parlerait plus tellement de problèmes de malnutrition, de famine dans les prisons. C'est toute une politique qui est conçue. Je trouve un personnel engagé, il y a une volonté. J'ai parlé avec les autorités provinciales qui sont d'accord pour accompagner, n'est-ce pas, les partenaires qui nous aident.
D'après la MONUSCO, si la sécurité est assurée à la ferme et s'il y a un appui du gouvernement, les activités vont s'agrandir et des dizaines d'hectares seront exploités. Et il y aura aussi l'élevage des chèvres, des porcs et autres bétails. Kalemi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Nord Kivu, le gouverneur de province, le lieutenant-général Constant Ndima, a lancé le vendredi la campagne de vaccination contre l'épidémie de choléra enregistrée dans le territoire de Niragongo. Dans un message rendu public vendredi, le gouverneur annonce les modalités de cette campagne de vaccination qui se tiendra du 25 au 30 janvier 2023. Il invite la population de la zone de santé de Niragongo et Karisimbi, et en particulier les déplacés de guerre, à prendre part à cette campagne de vaccination. Le lieutenant-général Constant Ndima devant la presse officielle.
Chers compatriotes habitant les zones de santé de Niragongo, Karisimbi et plus particulièrement la communauté des déplacés internes, la campagne cible les communautés de déplacés internes et les familles d'accueil. À cet effet, pour pouvoir enrayer efficacement l'épidémie, il est crucial de renforcer les mesures de prévention du choléra, dont la vaccination est l'un des éléments essentiels. Pour ce faire, toute personne âgée d'une année et plus recevra gratuitement une dose du vaccin oral afin de se protéger. Je lance donc un appel à chaque membre de la communauté de déplacés internes vivant dans les zones de santé citées ci-haut à maintenir une hygiène domestique et personnelle essentielle. Les équipes de vaccination passeront d'un abri à un autre, d'un ménage à un autre, pour vacciner et sensibiliser sur l'importance de la vaccination contre les choléras dans les camps, cite Zéblon.
Le gouverneur du Nord Kivu rappelle aux habitants certaines mesures de prévention, notamment le lavage des mains, la consommation de l'eau traitée ou bouillie, laver et cuire correctement les repas et les couvrir. Rappelons que cette épidémie a été déclarée dans les sites des déplacés depuis le 14 décembre 2022. C'est à la suite de la promiscuité et aux mauvaises conditions de vie des déplacés venus de Rutshuru. La persistance de l'insécurité dans la province de l'Ituri démontre l'incapacité de l'état de siège de remplir sa mission qui est d'endiguer les menaces et de sécuriser les populations et leurs biens. C'est le conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo, Calcissé de Bounia, qui le dit dans une déclaration publiée le vendredi au chef-lieu de l'Ituri. Cette structure demande au gouvernement central de lever cette mesure et d'établir des bases militaires spéciales dans les territoires de Djougou, Mahagi et Irumu pour neutraliser les groupes armés. Isaac Remoyope nous en dit plus.
Selon les Calcissé, la misère de l'état des sièges avait suscité beaucoup d'espoir chez les Ituriens, c'est-à-dire la fin des drames qui les hantaient depuis 2017. Mais depuis l'instauration de cette gouvernance particulière, les sangs continuent d'écouler et l'insécurité persiste. Cette structure dénonce des tueries des civils, la destruction des infrastructures socio-économiques et les déplacements massifs de la population. Elle fustige aussi les bavures des FARDC qui ont érigé plusieurs barrières illégales des tracasseries à l'instar des miliciens. Tout cela démontre l'échec ou l'incapacité de l'état des sièges, affirment les laïcs catholiques de Bounia. Face à ces tableaux sombres, ils plaident pour la levée de cette mesure et la restauration du gouvernement civil. Ils demandent également au gouvernement central de placer des bases militaires spéciales des FARDC dans les territoires de Djougou, Mahagi et Irumu pour combattre les groupes armés et d'accélérer les processus de DDRCS et aux groupes armés d'arrêter les tueries et de remettre toutes les armes sans condition et de conclure que s'il n'y a pas de cessation de l'insécurité dans un bref délai, les membres des Calcissé vont entreprendre des actions légales non violentes pour pousser le gouvernement à assumer ses responsabilités. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Retour au Nord Kivu. Un calme relatif a été observé hier samedi dans la matinée sur les lignes de combat, notamment dans les groupements Bishusha et Tongo, chefferie de Bwito, mais aussi sur l'axe Masisi, secteur Nyamulagira. Les derniers affrontements ont opposé momentanément vendredi le M23 aux milices locales à Mudugudu et Shoni dans le Bwito. Sur l'axe Nyamilima, plus au nord de Rutshuru, les sources locales renseignent qu'aucun incident n'a été enregistré depuis plus d'une semaine. Les rebelles du M23 sont concentrés à Kisharo et Katwiguru, alors que plusieurs agglomérations sur ces axes sont occupées par les Maïmaï, c'est notamment Murambi, Buramba, Nyamilima, Ishasha et Nyakakoma. Direction la province du Maniema. Après avoir pris officiellement ses fonctions de maire de la ville de Kindu le mercredi 18 janvier, Augustin Mulamba Atibou a réuni hier samedi pour la première fois tous ses agents pour une réunion de prise de contact. À cette occasion, le nouveau patron de la ville de Kindu les a exhortés à un travail bien fait pour permettre à la mairie d'atteindre ses objectifs. Augustin Mulamba Atibou est au micro de Florence Kiza.
en dehors des présentations, parce que nous devions nous connaître les uns les autres, nous avons parlé des rapports entre les différents bureaux et la mairie, et nous avons aussi parlé de l'apport de chaque bureau pour le fonctionnement de la mairie. Il en ressort que tous les bureaux constituent pour la mairie un appui à la fois technique et financier. C'est ainsi que nous avons sensibilisé chaque bureau qui constitue pour nous une industrie de production de recettes pour que chaque bureau se mette désormais au travail. À l'issue aussi de ces échanges, chaque bureau a présenté ses difficultés et nous nous sommes dit que c'est ensemble que nous allons devoir chercher des solutions à ces différents problèmes que les bureaux ont posés. Je les appelle au travail. C'est le travail qui va nous nourrir tous. C'est le travail qui va faire en sorte que nous ayons suffisamment de moyens pour résoudre les problèmes des agents et aussi résoudre les problèmes auxquels la population de Kindu est confrontée. Si nous ne travaillons pas, ne nous attendons à rien. Mais si nous travaillons et que nous produisons, nous serons utiles pour nous-mêmes et nous serons aussi utiles pour la société.
Au Kasaï-Oriental, par contre, les cadres de la territoriale nommés récemment par ordonnance présidentielle du 18 novembre 2022 ont eu droit à une session de renforcement des capacités. Clôturée hier à Mbujimayi, ce rendez-vous du savoir a été organisé par le ministère provincial de l'Intérieur en collaboration avec le gouvernement provincial pour une durée de 3 jours. Plusieurs notions touchant notamment aux différentes lois organiques, à la gestion de proximité ainsi qu'à celle de la chose publique leur ont été communiqués avant la remise et reprise avec les anciens gestionnaires. Cérémonie prévue demain lundi 23 janvier. Le compte-rendu de Esther Ndalafina.
Au cours de cette formation, plusieurs professeurs d'université ayant des connaissances sur l'administration territoriale, la gestion de proximité et bien d'autres matières ont été alignés pour renforcer les capacités des nouveaux cadres. Constantin Kabeya, chef de bureau à la division provinciale de l'Intérieur, l'un des facilitateurs, a parlé des innovations de la loi organique portant subdivision administrative.
À la législation passée de la province, on l'appelait entité décentralisée. Cette fois-ci, il porte la casquette d'une composante politique et administrative. Il y a les cités qui se sont transformées, d'autres en villes, d'autres en communes. Le chef de groupement est reconnu comme un agent de l'État. Le chef de village y compris.
Content d'être outillé, Pierre Chibasubashia, nouvel administrateur du territoire de Miabi, promet de mieux prester.
La population doit attendre de nous le travail. C'est à elle de nous juger par rapport au travail qu'on aura à faire.
Irène Mbalayi, nouvelle bourgmestre de la commune de Bipemba, s'est dit prête à relever le défi lié à l'insécurité dans son entité.
Avec la population, nous allons pouvoir travailler de sorte d'arrêter l'insécurité, rendre salubre la commune de Bipemba.
Signalons que les nouveaux animateurs de la territoriale feront la remise et reprise de ce lundi 23 janvier 2023. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Dans l'enseignement, poursuite de la grève des enseignants des écoles publiques de la sous-division de l'EPST de Beni, au Nord Kivu, les activités scolaires restent paralysées dans ces établissements. Les grévistes réclament une majoration de leur salaire. En réaction, le comité local des élèves demande au gouvernement de se pencher sur cette question pour permettre la reprise des cours. Guylaine Kassassia, reportage.
Au troisième jour de la grève des enseignants, toutes les écoles primaires et publiques de Beni restent fermées. Les enseignants qui ont déclenché un mouvement de grève réclament une majoration salariale et les débuts des activités de la mutuelle de santé. Une situation qui inquiète le comité des élèves de Beni. Son président Choukrani Ramazani appelle le gouvernement à se pencher sur cette question.
Les victimes, c'est nous les élèves. Nous sommes désolés. Dans notre entité, il y a toujours des grèves. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de régulariser les problèmes une fois pour toutes? C'est ça ce que je suis en train de recommander au gouvernement. Mais aussi aux enseignants de voir comment régulariser les problèmes aussi. Tous les jours décréter les grèves quand il n'y a pas toujours la solution. C'est ça les problèmes qui nous perturbent à ville comme à territoire de Beni. La grève continue. Tandis qu'ailleurs, ils sont en train d'étudier. Nous sommes en train de perdre les cours et ces jours ne sont pas récupérés dans les calendriers, même dans des écoles. Que les enseignants aient pitié de nous parce que c'est nous qui sommes en train de perdre les cours.
Le chef de la sous-division de l'EPST, Beni, dit espérer la reprise des cours dans les écoles d'ici la semaine prochaine. Olivier Matsourolin qui annonce pour ce samedi de pourparler avec les syndicalistes de l'entité sous sa responsabilité. Beni, Guylaine Kassassia, Radio Okapi.
Et puis, 13 récipiendaires congolais, tous licenciés en économie, ont obtenu leur diplôme de master en sciences de gestion et le certificat en gestion et droit des affaires de l'Université de Liège. La proclamation des résultats qui intervient après 18 mois d'enseignement a eu lieu hier au Centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa. Ce programme est le fruit d'un partenariat entre l'Université protestante au Congo, UPC, et l'Université de Liège en Belgique. Kelly Oka nous en dit plus dans ce reportage.
Ces acclamations ont accompagné les diplômés tout au long de la cérémonie. Wilfried Nissin, directeur de l'école de gestion de l'Université de Liège, a à cet effet exhorté les diplômés à mettre au service du pays les savoirs acquis.
Ils ont fait le choix d'un diplôme exigeant. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas que le diplôme, mais il y a aussi le fait qu'ils deviennent ambassadeurs des valeurs de l'Université de Liège. Ils deviennent diplômés et alumni. Et j'espère qu'ils pourront d'abord recruter ou aider à recruter de plus en plus d'étudiants ici à Kinshasa. Et surtout, utiliser les savoir-faire et savoir-être acquis au service de Kinshasa et du Congo de manière générale.
Un diplôme qui a laissé sans voix les récipiendaires. Deux d'entre eux témoignent.
Voilà, ça faisait 10 ans que j'avais fini les études et quand j'ai appris qu'il y avait un programme de master, et comme vous le savez, il faut toujours apprendre, on ne s'arrête jamais d'apprendre.
C'est un réel plaisir pour moi de participer à ce programme qui est pour moi un programme d'amélioration des performances managériales. Ça vient nous aider à renforcer davantage nos capacités.
Rappelons que l'inscription à ce programme qui a pour cadre le Centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa ne concerne que les licenciés en économie congolais.
Actualité Afrique Monde.
Le nord-est de Madagascar est frappé depuis jeudi par une forte tempête tropicale dénommée Echenezo, principalement dans les districts de Maraoutsetra et d'Antiranana 2, dans la région d'Analangiro et de la Sava. Echenezo est la première tempête tropicale de la saison cyclonique 2022-2023 qui se déroule annuellement d'octobre à avril a touché Madagascar. Après avoir touché terre, la tempête s'est dirigée vers le sud-ouest avec des vents de 90 km par heure et des rafales pouvant atteindre jusqu'à 120 km par heure. Selon le Bureau national de gestion des risques et catastrophes, la tempête a fait plus de 2000 sinistrés et 214 personnes déplacées, des chiffres qui pourrait évoluer.
L'invité.
Depuis le 18 janvier, aucun bilan officiel n'est disponible à propos du naufrage qui a coûté la vie à une centaine de passagers à Bassankoussou, dans la province de l'Équateur. 4 jours après, le gouvernement provincial a dépêché une délégation humanitaire pour une investigation en vue d'obtenir des données officielles sur ce drame. Mais quelle lecture le commissaire fluvial de Mbandaka fait-il de ce cas d'accident de navigation ? Compétent Mboyo répond aux questions de Paul-Richard Malengela.
Commissaire fluvial compétent Mboyo, bonjour. Quelle est la situation exacte qui s'est passée selon les informations de votre possession?
C'est le journaliste, il y avait une pirogue motorisée à partir de M. Papi Bokechu. C'était un commerçant de Bassankoussou. Et d'habitude, il quitte Bassankoussou pour l'Iran en français. Il achète des carburants, des cartes et les autres. Il cherche que c'est bien à lui, avec ses membres d'équipage.
C'est vrai qu'il y avait des pirogues couplées?
Oui, après les informations, c'est des pirogues couplées. On fait collision avec les radeaux. Et la pirogue était sur ces radeaux-là. Donc, techniquement, on ne peut pas connaître des cas de naufrage, des cas de noyade, parce que la pirogue était sous les radeaux. Même dans un convoi, on peut transporter plus de 150 personnes.
Justement, à propos, parce que vous contrôlez jusqu'à Bassankoussou, quel est le rapport fait par votre chef de bureau? Le manifeste faisait état de combien de personnes au départ de Bassankoussou?
C'est ça qu'on est en train de dire, que ce sont des convois pirates. Même les types-là, on n'a pas un poste qu'il était allé faire des formes pour la descente. Il fuit sur le convoi pirate. Et je demande, même à Bassankoussou, avec un convoi accompagné de 2 pirogues, on peut transférer plus de 150 personnes. C'est impossible. C'était nous les disant que non, on doit éviter à faire des traumatismes. Moi, je vous confirme qu'il n'y a pas le cas de mort d'homme.
Nous avons quand même les témoignages des passagers qui étaient à bord, qui confirment qu'ils étaient au temps et qu'ils ont perdu leurs effets, des chèvres, de produits vivriers. Il y a même des étudiants qui revenaient de vacances pour étudier ici en Bandak.
Monsieur le journaliste, on est en Bandak. Bassankoussou, il y a un problème de 150 ou bien 100 morts. 100 morts, même au niveau de Bassankoussou. il aura des plaies. Nous sommes ici. On nous a appelé comme des gens qui disent que nous, ensemble, nous avons les accidents. Il n'y a personne. Même ceux qui sont partis là-bas, ils devaient venir en Bandaga. Parce que c'est l'heure de l'heure de terminus.
C'est à plus de 200 km d'ici. Comment ils pouvaient encore arriver ici sans pirogue, sans moyen de.
Mais c'est ça le problème. Nous nous demandons où sont-ils.
Il y a l'athée de Bassankoussou qui a confirmé.
Moi, j'avais reçu la lettre de l'athée de Bassankoussou. Il me dit 100 morts avec 50 rescapés. Je lui ai posé la question, c'est faux, archifou. On les a enterrés où? Ils peuvent nous identifier. Même un cadavre qu'on les a retrouvé, qu'on nous donne son identité, il appartient à quelle famille?
Parmi les preuves, on fait état de deux pasteurs qui étaient à bord, qui sont effectivement décédés, dont on a aussi retrouvé les corps.
Le pasteur.
Le pasteur de l'église Élie qui était venu de Bandaka pour une cérémonie de mariage. Oui. À leur retour, ils ont connu cet accident-là.
Si la famille, mes révérends pasteurs sont ici, parce que quand le pasteur est mort, je ne sais pas si c'est tout le monde qui serait affecté parce qu'on a perdu un homme de Dieu. Est-ce que vous êtes parti dans leur maison, dans l'église qui prie, ou dans sa famille? Nous cherchons les choses concrètes. Vous étiez dans
le. On va le faire parce que nous venons de l'apprendre aussi. Très souvent aussi, les services publics ont tendance à minimiser les dégâts ou.
Non, on ne minimise pas. On ne minimise pas. Parce que la vie humaine est sacrée. Moi, je voulais même l'aider là, que les adresses soient bien identifiées. Parce que quand on a trouvé le pasteur, on l'a enterré où? C'est le problème, parce qu'il y a l'inondation. Si on a trouvé sa mort, par rapport à quel document de référence? Si on avait enregistré 150, je pense que le service qui avait enregistré, il a la copie. Parce que quand vous délivrez un document de passager, la DGM spécialisée à ça, il a une copie qui garde. Parce qu'aucun des problèmes, on va se référer. Mais quand il y a plus de 150 personnes dans deux pirogues, impossible.
Ils sont partis
clandestinement. Oui, ils sont partis clandestinement parce que même le type là, il n'est pas identifié comme un armateur. Il n'a aucun document. Même que le conducteur là, il n'a pas un document. Il a pris fuite. Vous savez, quand devant l'accident, première chose, que le commandant fouille. Ça veut dire que nous, au niveau de la navigation, on prend seulement les billets avec des réserves parce qu'on n'a pas vraiment vu des morts. Parce que moi, quand je parle des morts, même les disparus, on n'a pas dit des disparus parce qu'on ne connaît pas les nombres qui étaient embarqués dans les manifestes. Comment on va dire qu'il y a autant de disparus, autant de morts? C'est ça que je persiste. Au moins qu'à partir du 20, on va chercher. On saura qui sont morts, qui ne sont pas là, qui sont disparus, avec quelques rescapés. Mais les rescapés, ils se connaissent.
Comme une maman qui a déclaré qu'elle avait ses quatre enfants, tous les quatre sont décédés, elle est sortie seule.
Oui, elle peut déclarer quatre enfants, monsieur le journaliste. De quel âge? Parce qu'on doit être sérieux. On a vécu des choses, monsieur le journaliste. Ça veut dire qu'on doit savoir, il y a autant de morts. Cette maman-là vous a dit que non, nous sommes allés à la DGM. Ils étaient embarqués où, dans quel port? D'abord, ils ont quitté Bassankoussou à quelle heure?
17h.
17h, après les heures de service. Est-ce que le service était présent? Imaginez quand ils quittent à 17h, à 2h du matin, ils connaissent un accident de navigation. Ils ont navigué, qui nuit tellement.
C'est ça votre lecture?
Oui, c'est ça ma lecture, comme technicien.
Commissaire fluvial compétent Boyo, merci beaucoup.
Merci, monsieur le journaliste.
Notre invité, le commissaire fluvial de Mbandaka, répondez aux questions de Paul Richard Malengela. C'est la fin de ce journal supervisé et coordonné par Pele Kipela Mondo à la mise en onde Dieudonné Nyangasa. Merci de nous avoir suivis.